Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 10 décembre 2021 et on a un tout petit peu changé notre fusil d'épaule. Alors il faudra pas dire que je ne vous l'avais pas dit, puisque finalement le thème d'hier, enfin un des thèmes d'hier sur les marchés, surtout aux États-Unis, c'était la crainte de l'inflation. Alors je vous l'avais dit, si je l'ai dit quand même, eh bien, effectivement, hier, on était hyper chaud bouillant, enfin, avant-hier, on était hyper chaud bouillant, parce que tout allait bien, à cause que le variant Omicron, c'était pas si grave, et puis finalement, eh bien, on s'est quand même rendu compte que si le variant Omicron, c'était pas si grave, eh bien, ça pouvait quand même mener à un risque inflationniste encore plus marqué, et surtout, à une perte de soutien, à un moment ou à un autre, de la part de la Banque Centrale Américaine. Si on prend les choses dans l'ordre, hier en Europe, on est toujours très méfiant. On est toujours très méfiant par rapport aux variants Omicron, bien sûr, on s'inquiète toujours. C'est vrai que les mesures restrictives qui sont prises tous les jours en Europe sont beaucoup plus marquées, beaucoup plus intensives que ce qu'on peut voir aux États-Unis par exemple. Donc forcément, la perception des gens sur place doit être un tout petit peu différente. Mais nous en Europe, on était encore très préoccupés par le variant Omicron, mais pas que. Parce qu'il y a eu aussi des rumeurs qui sont arrivées sur Reuters. On s'autorise à penser dans les milieux autorisés qu'éventuellement, peut-être, mais c'est même pas sûr, la BCE pourrait commencer à réduire massivement ou un peu moins massivement son rachat obligataire, ses rachats obligataires, entamer donc également un tapering. Et donc, du coup, on est un peu dans le même mood qu'on était au niveau de la Fed il y a quelques mois en arrière. Donc, rien d'officiel. Hein. C'est vraiment que des gars qui se disent qu'il y a un type anonyme qui préfère pas donner son nom parce que ce serait mal vu de la part de la BCE s'il savait qu'il parlait aux journalistes. Enfin bref, du coup, on s'inquiète. Il se pourrait que la BCE soit en train de changer son fusil d'épaule. On a eu déjà des commentaires de Madame Lagarde il y a plusieurs semaines qui disait que monter les taux était exclu pour le moment. Mais si on entame un tapering, forcément, on va revenir à la thématique de la hausse des taux en Europe. Et là, tout de suite, les marchés n'auraient pas envie du tout. Donc, on était un petit peu en mood hésitation. Alors, c'était pas un sell-off en Europe, mais on était hésitant, un peu moins euphorique qu'on aurait pu l'être ces derniers jours quand on s'est rendu compte que le variant Omicron, bah, c'était pas si grave. Aux États-Unis, par contre, c'est un petit peu différent. Donc, comme je viens de le dire, effectivement, le variant Omicron est considéré comme un peu moins préoccupant. Alors, on en parle quand même, mais c'est pas aussi stressant que les Européens le ressentent, en tous les cas. Alors, il y a eu quand même eu quelque part 2-3 articles, on l'a quand même mentionné, parce qu'il fallait le mentionner, mais par rapport au fait qu'il y a 2 semaines en arrière, on avait le variant Omicron à peu près tous les, un article sur un, c'était à propos du variant Omicron. Aujourd'hui, on le cite encore dans les rapports de fin de journée, comme quoi certains gars en ont parlé. Mais la préoccupation principale, les doutes qui ont commencé à venir durant la séance, parce que ça se passait pas trop mal durant la journée, eh bien, c'est effectivement lié à l'inflation. Donc, je vous refais le truc. Si le variant Omicron, il n'est pas très grave, eh ben forcément, du coup, les gens vont ressortir. Libération, détente, voyage, achat de pétrole, hausse de l'inflation, hausse des matières premières. Et donc, du coup, cet après-midi à 14h30, il y a les chiffres du CPI, le Consumer Price Index aux États-Unis, chiffre qui va nous dire si vraiment c'est la catastrophe ou pas. Alors, comme vous voyez, les attentes, on attend 4,9% de hausse de l'inflation, si on veut bien aujourd'hui. Donc, ce serait terrible. Et puis, si c'est dans ces chiffres-là ou pire, alors évidemment que la Fed qui se réunit donc mardi et mercredi prochain, eh bien, faut pas s'attendre à un discours hyper arrangeant après la réunion, donc mercredi soir. Ils vont venir avec un truc super hawkish, ça paraît évident. Donc, du coup, c'était un petit peu le stress qu'on avait hier soir. Malgré ça, on a eu des très très bons chiffres au niveau des jobless claims. C'est les chiffres les plus bas depuis 52 ans. Alors, ça fait super rock'n'roll. Hein. On se dit, depuis 52 ans, on n'a jamais eu des chiffres aussi bas ou aussi bons au niveau des jobless claims. Les gens ne demandent plus d'indemnité chômage. Alors, est-ce qu'ils ont trouvé du boulot? Est-ce qu'ils gagnent tellement d'argent en faisant du trading à côté? On ne sait pas. Mais en tous les cas, les chiffres sont au plus bas depuis 52 ans. Déjà mieux que la semaine dernière, encore qui étaient déjà les plus bas depuis 52 ans. Donc ça, c'est des bons chiffres. Mais ça aussi, ça veut dire que quelque part, et alors, ça va pousser la Fed à être de nouveau au quiche, un peu plus agressif. Donc, tout d'un coup, on a réagi là-dessus aux États-Unis et en fin de séance, yours, on a tout vendu. Et finalement, le Nasdaq en prend plein les dents, 1,7% de baisse sur le Nasdaq. Pourquoi ? Eh bien, parce que quand les taux menacent de remonter, les premiers qui s'en prennent plein les dents, c'est la tech. C'est un grand classique. Les gens, ils sortent de la tech et ils se repositionnent sur les défensives, les value stocks. D'ailleurs, on voit que le Dow Jones n'a pas baissé et c'est le Nasdaq qui a tout pris dans la gueule. Enfin, en même temps, comme c'est lui qui a tiré le marché ces derniers temps, on va pas non plus lui en vouloir. Donc, en résumé, fin de session aux États-Unis hier soir, la peur d'une, pas d'une hausse des taux, mais d'un tapering plus agressif annoncé mercredi prochain, deux chiffres du CPI cet après-midi trop inflationnistes, bref, c'était courage fuyant hier soir, rien de catastrophique non plus, mais le petit doute quand même qu'on commence à se dire, c'est que le S&P 500 est revenu vraiment au plus haut de tous les temps, mais n'a pas réussi à casser dans ce rebond de folie qu'on a vécu depuis 2-3 jours. Et donc, ça voudrait dire que techniquement, c'est un double top. Et si c'est un double top, ça veut dire qu'on peut se reprendre une tôle derrière pour aller rechercher les plus bas de ces derniers temps. Alors, pour l'instant, on n'en est pas là. Mais attention aux chiffres du CPI, attention au meeting de la Fed, attention à la version hawkish de Monsieur Powell. Ce sont les stress du moment. Parlons de Tesla. Ça fait un peu longtemps qu'ils n'ont pas fait les front page, entre guillemets. Alors, Tesla était pas mal sous pression. Hier, le titre a perdu plus de 6%. La raison principale, c'est que les autorités américaines se sont soudainement rendues compte que quand vous conduisez une Tesla, vous pouvez également jouer à des jeux vidéo directement sur le grand écran au milieu de la voiture. Alors, gros scandale, mais comment est-ce possible? Où est la sécurité? On va avoir des accidents. Puis non seulement on s'est rendu compte qu'on pouvait jouer à des jeux, mais également aller sur le net. Alors, gros scandale, les autorités américaines sont en train d'enquêter sur ce comment est-ce possible finalement. Alors, ce que c'est assez rigolo, c'est quand ils ont donné l'autorisation finalement à ces voitures de circuler à l'époque, personne n'a rien vu, c'est génial les voitures électriques. Donc du coup, eh bien, ils sont en train de se poser des questions et ça met un petit peu la pression sur Tesla. Alors, c'est dommage hein, parce que il paraît que les prochaines options, c'était le mini-bar avec du whisky et des rhums arrangés à disposition à l'intérieur de la voiture. Et puis que peut-être il y aura également des endroits à côté des superchargeurs où on pourrait acheter du cannabis et puis des substances psychotropes qu'on pourrait utiliser au volant de la Tesla après. Non, j'exagère. Mais en tous les cas, ce qui se trouve aujourd'hui, c'est que les gens ont été un peu stressés sur Tesla par rapport à ça parce que voilà, les autorités américaines enquêtent. C'est un petit peu l'éternelle histoire finalement aux États-Unis quand vous avez une boîte qui fait une success story, tout le monde trouve ça absolument génial. C'était déjà arrivé à l'époque avec Microsoft, et puis quand tout d'un coup on se rend compte que ces mecs-là ils sont en train d'avoir un monopole et une prise sur un secteur spécifique, tout d'un coup le bon gouvernement il commence à venir s'occuper de ce qui se passe et ce qui est en train de se passer sur Tesla pour l'instant. Alors affaire à suivre, c'est pas une catastrophe pour l'instant, je pense que supprimer ces espèces de possibilités de jouer à Candy Crush pendant que vous roulez, ça va pas être très compliqué. Mais en tous les cas, il y avait de la pression hier, en plus on a fait les additions, et bien Elon Musk a déjà vendu pour 12 milliards de Tesla ces derniers temps. Ah, il en a encore quelques-unes de toute façon, puisqu'il pèse 250 milliards encore en Tesla, je crois tranquille. Mais voilà, il a vendu pour 12 milliards d'actions, donc tout le monde se pose toujours un petit peu de questions. Bref, mauvaise journée pour Tesla hier. Le sujet suivant de la journée, c'est Katie Wood, ARK Invest, qui était dans les médias hier pour défendre en fait sa performance. Alors, vous l'avez vu cette année, leur investissement thématique a été quand même un petit peu moins successful que d'habitude. Moins 19% en moyenne de performance sur leurs 6 certificats. Il y en a 5 qui sont négatifs cette année. Elle s'est défendue en disant qu'on n'avait rien compris, qu'il y avait encore un potentiel de hausse absolument phénoménal ces prochaines années sur cette thématique, sur les thématiques qu'elle traite. Donc hyper bullish, elle parle de quadrupler dans les 5 prochaines années. Faudra-t-il que les gens comprennent ce que c'est d'attendre et de faire d'investissement sur le long terme et pas sur les 5 prochaines minutes parce que c'est pas vraiment la mentalité pour l'instant. Néanmoins, elle essaie de rassurer et de convaincre. Il est vrai que ceux qui sont avec elle depuis le début, eh ben, ils sont plutôt contents. Bon, alors, un des premiers backers, une des premières personnes qui a investi avec elle, c'est le type d'Archegos qui a fait exploser le Crédit Suisse au début de l'année. Alors, pour l'instant, il n'est pas tellement en train de faire la fête, il a d'autres soucis en ce moment. Mais globalement, voilà, elle est à la télé pour essayer de se défendre parce que c'est un petit peu plus compliqué que d'habitude, malgré que les marchés sont au plus haut de tous les temps. On voit quand même qu'à l'intérieur, il y a des secteurs qui n'ont pas aussi bien performé que d'habitude. Mais ça n'est pas terminé. Soyons patients, dans les 5 prochaines années, on verra ce qu'il en est. Il y a Amazon aussi qui s'est pris une amende d'1,3 milliard de dollars de la part des autorités antitrust italiennes. Alors 1,3 milliard de dollars pour Amazon d'amende, c'est un peu comme si vous vous prenez 10 centimes d'amende parce que vous avez roulé à 250 sur l'autoroute en train de fumer un pétard, de boire du whisky et de jouer à Candy Crush sur votre Tesla S. Donc du coup, absolument aucune incidence. Le titre a perdu 1,1% hier. Faut pas croire que ce soit à cause de ça. Mais en gros, 1,3 milliard d'amende, franchement, pour une boîte comme Amazon, eh bien, c'est juste piece of cake. Et puis, la dernière news un petit peu importante, parce que le reste est relativement calme, eh bien, c'est Ford qui a déjà plus de 200 000 commandes pour son nouveau pick-up. Alors, le pick-up F-150 est un pick-up mythique chez Ford, une de ses meilleures ventes, si ce n'est la meilleure vente de Ford depuis toujours. Ils ont annoncé l'arrivée du F-150 électrique, les gens se sont jetés dessus, 200 000 commandes du nouveau pick-up F-150. On sait qu'il y a des problèmes de shortage au niveau des semi-conducteurs et que beaucoup de constructeurs automobiles ont de la peine finalement à suivre le marché et puis à fournir les véhicules. Mais là, Ford a déclaré que le problème principal qu'ils avaient, et c'était les batteries. Donc ils auraient plus ou moins ce qu'il faut comme semi-conducteurs, mais pas les batteries. Alors visiblement, parce que je pense que les enfants au Congo qui extraient le cobalt, eh bien, ils vont pas assez vite pour travailler, donc il y aura pas assez de batteries dans les médias. Mais moi, j'ai une solution. Il suffirait finalement de changer les batteries et les moteurs et de mettre des V8, ça irait aussi bien dans un F-150. La question du jour, c'est un des auditeurs qui m'a envoyé ça en me disant que lui, à partir de Noël 2021, il partait un an sur une île déserte où il y aurait pas de connexion, pas de Wi-Fi, rien du tout, et que durant cette année-là, il voudrait acheter 3 actions avant de partir et ne pas les toucher pour les revendre au mois de décembre l'année prochaine, et il me demande lesquelles je prendrais. Alors ça, c'est la grosse question, assez compliquée. Alors je vais être un petit peu bateau, mais si aujourd'hui je devais prendre 3 actions, alors moi, dans mon envie de me diversifier globalement, eh bien je prendrais tout d'abord Apple. Apple, je vais pas vous expliquer pourquoi je la prendrais, simplement parce qu'ils ont des montagnes de cash, qu'elle est relativement bien valorisée, que de toute façon, on va changer nos téléphones régulièrement, que l'arrivée et le développement de la 5G dans le monde va faire que les gens ils vont continuer à acheter des iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15, que leur gamme de produits PC et compagnie continue à cartonner. Donc, à mon avis, Apple, c'est sur un train dossier et ça va continuer de monter. Donc, c'est pas non plus le titre qui va doubler l'année prochaine. Mais je pense qu'il n'y a pas de risque à se positionner sur Apple. Le deuxième, où il y a encore moins de risques, mais je pense que ça fait partie de tous les portefeuilles, ça devrait faire partie de la plupart des portefeuilles, ça c'est un peu le call à la Warren Buffett, donc je me prends pas pour Warren Buffett, mais le call à la Warren Buffett, c'est acheter du Coca, acheter du Coca, acheter du Coca. Coca, de toute façon, c'est pas le truc le plus fun, mais ça paye un dividende de 3,5%, ça monte toujours K1, K1. A priori, la probabilité que les gens arrêtent de boire du Coca, elle est relativement faible, même si tout d'un coup, avec les bonnes résolutions du 1er janvier 2022, on arrête de boire des boissons sucrées qui vont tenir à peu près jusqu'au 12 janvier de toute façon, Coca me paraît relativement intéressant, d'abord parce que c'est une des bases de mes fonds de portefeuille. Si vous n'avez pas de Coca, eh bien vous n'avez pas un portefeuille avec moi. Et puis la dernière action que j'aime beaucoup, alors vous le savez puisque j'en ai encore parlé hier ou avant-hier, je sais plus, je pense que c'est Porsche, parce que Porsche, eh bien, aujourd'hui c'est que la holding, mais il va y avoir beaucoup de spéculation ces prochains temps parce que Porsche va venir probablement en spin-off dans le marché en tant qu'entité réelle de la Porsche, avec le symbole 911 probablement, et donc du coup je pense qu'il y aura beaucoup de spéculation là-dessus, et ça va probablement cartonner, et quand on voit en fait la performance des boîtes comme Ferrari, alors je compare pas Ferrari et Porsche, mais quand on voit la mise en bourse de Ferrari, ce que ça a donné derrière, je pense que Porsche, ça sera aussi une très belle histoire. Donc il faut avoir de la holding pour pouvoir être sûr de choper la vraie IPO derrière, et c'est, il y aura aussi de toute façon de la spéculation sur la holding. Donc voilà, Porsche, ça fait aussi partie des portefeuilles que j'aime bien. C'est pas les trucs les plus sexy, donc j'ai décidé d'en remettre quand même une quatrième, parce qu'il va falloir jouer une thématique. Alors d'aucuns me diront, oui mais c'est trop tôt, oui mais on sait pas, oui on n'en sait rien. Alors justement, je prendrai un ETF quand même, et je jouerai la thématique du métaverse. Alors vous avez un ETF aux États-Unis qui s'appelle le Meta, et le Meta vous permet de jouer toute cette thématique, dedans vous avez un peu de tout. Donc déjà vous avez une diversification, vous avez du Nvidia, vous avez du Facebook, donc vous avez la possibilité de jouer toute cette thématique de l'évolution du métaverse. Et puis à noter aussi que Swissquote a également un produit métaverse qui est disponible pour les clients Swissquote. Donc ça me paraît une bonne solution. Donc ça serait 4 actions et pas 3, enfin 3 actions et un ETF pour jouer l'année prochaine. Mais c'est vraiment un pari parce que vous me dites je fais rien pendant 12 mois et que je suis sur mon île déserte. Si jamais il y a moyen de venir passer les vacances là-bas, je suis toujours intéressé. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à raconter aujourd'hui, en ce vendredi matin. La bonne nouvelle, c'est que c'est le week-end, donc on va se reposer pendant 2 jours. Aujourd'hui, dernier stress de la semaine, c'est les chiffres du CPI tout à l'heure. N'oubliez pas, ce sera le gros point charnière de la journée. Et puis après, on plie et on part en week-end. Je vous souhaite une très belle journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote Suisse. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Et puis, on se revoit lundi matin pour fêter dignement ces 12 000 followers sur la chaîne YouTube Swissquote Suisse. Merci beaucoup. Merci à tous et très bon week-end. Bye bye.